Vous avez entendu, comme moi, lors de la lecture du psaume 84, un mot qui revenait trois fois et qui fait toujours un effet. C'est le mot « bienheureux ». Il y a trois strophes dans ce cantique, dans ce psaume, qui sont séparées par des pauses, des « selah ». Et quand ils étaient chantés ou dits, on s'arrêtait pour bien méditer. Et à chacune de ces strophes, il y a le mot « bienheureux » qui nous fait penser au mot « bonheur ». Bienheureux, c'est celui qui vit un certain bonheur. Et à ce mot, au mot « bonheur », l'homo sapiens sapiens, l'homo protestantus evangelicus, réagit parce que le bonheur est une aspiration humaine et universelle. Comme si cette recherche du bonheur était inscrite dans notre ADN, comme le psaume écrit par le PPP Gélos en parlait. Mais les questions se bousculent avec cette question du bonheur. C'est quoi le bonheur? Quel est le contenu du bonheur? Comment mesure-t-on le bonheur intérieur brut? Quels sont les critères? Ou comme le disait le chanteur Kali, c'est quand le bonheur? Avec une pointe peut-être d'impatience, hein. Ouais, c'est quand le bonheur? Ou de déception. Ouais, c'est quand le bonheur? Parce que le bonheur semble nous échapper. Comme le savon entre les mains d'Alain Prost dans une publicité des années 80. Vous en souvenez pas? Je devrais laisser tomber mes illustrations des années 80, je crois. Mais il est du bonheur comme de beaucoup d'autres choses. Il nous faut entendre une parole différente que celle que la société nous propose. Entendre une parole différente qui serait inspirée par celui qui est à l'origine de toute chose et de toute vie. Oui, il nous faut entendre une parole de Dieu sur le bonheur. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années, ici même, on avait parlé du bonheur. On avait dit que Jésus parlait lui-même du bonheur dans son sermon sur la montagne. Et Jésus, dans son sermon sur la montagne, dans Matthieu 5, va prononcer 8 fois le mot « bienheureux » comme dans le psaume 84, ou 8 fois le mot « heureux ». Et ce qui frappe dans les paroles de Jésus sur le bonheur, c'est d'abord qu'il déclare les gens heureux. Heureux êtes-vous, heureux ceux qui se savent pauvres en eux-mêmes, etc. Il ne fait pas des sondages, comme on l'a fait pour le bonheur intérieur brut dans les pays, avec des critères bien particuliers. Il ne fait pas de sondage pour connaître l'indice du bonheur intérieur brut. Non, il déclare des personnes heureuses. Il me déclare, peut-être, moi heureux, peut-être vous heureux. Et être déclaré heureux par le Fils de Dieu, Jésus, Fils de Dieu, parole de Dieu, verbe de Dieu, c'est déjà quelque chose, n'est-ce pas? Être déclaré heureux, c'est déjà ressentir comme un bonheur. C'est comme une déclaration d'amour. On se sent heureux, amoureux, quand quelqu'un nous déclare son amour. Et puis, deuxième surprise, on s'attendrait à ce que Jésus, quand même, déclare heureux ceux qui volent de victoire en victoire, ceux qui se rient des difficultés, heureux les costauds dans la vie, qui ne se laissent pas marcher sur les pieds, heureux ceux qui sont satisfaits, heureux ceux qui ne se posent pas de questions, heureux ceux qui échappent à la souffrance. Et quand on lit les béatitudes du sermon sur la montagne de Jésus, les déclarations de bonheur de Jésus, on s'aperçoit que c'est tout le contraire. Heureux ceux qui se savent pauvres en eux-mêmes, heureux ceux qui sont doux, heureux ceux qui ont de la compassion pour les autres, heureux ceux qui pleurent, heureux ceux qui créent la paix autour d'eux. On est très loin de la conception normale du bonheur et Jésus, comme à son habitude, on va dire Jésus fait du Jésus là. Il renverse les valeurs du bonheur et nous invite à peut-être revoir notre conception du bonheur et à emprunter peut-être un autre chemin, une autre route du bonheur pour le trouver en lui. Il nous appelle à changer notre conception du bonheur et on pourrait utiliser un synonyme pour le mot « changer ». Il nous appelle à se convertir, à nous convertir jour après jour à une autre conception du bonheur, nous laisser renverser par cette déclaration du bonheur de Jésus. Mais il faut savoir, quand Jésus prononce ses béatitudes dans le sermon sur la montagne, il utilise un procédé littéraire déjà connu, utilisé dans l'Ancien Testament, en particulier dans le psaume 84 que nous avons lu. Ce sont, on va dire, les béatitudes de l'Ancien Testament. Et comme dans le psaume, comme dans le sermon sur la montagne, il y a dans le psaume 84 des déclarations de bonheur à ceux qui veulent l'entendre, ou même plutôt les recevoir, les accueillir, ces déclarations dans leur vie. Et là aussi, il ne s'agit pas de suppositions ni même de propositions, tiens, peut-être que... Non, des affirmations de bonheur. Heureux. Et on va les voir, les trois. Ce psaume a été écrit par les fils de Corée, et ça nous parle d'un voyage, d'un pèlerinage, un voyage avec Dieu, vers Dieu. Et la première de ces béatitudes arrive assez tôt dans le psaume, au verset 5, « Bienheureux ceux qui habitent ta maison ». Heureux ceux qui habitent ta maison. Alors, habiter la maison de l'Éternel, c'est un thème bien connu de l'Ancien Testament. On le chante, hein, « Une chose que je désire ardemment, c'est d'habiter dans la maison de l'Éternel ». Et la maison, c'est la présence. C'est la proximité, c'est la sécurité de la famille. Et dans le psaume, il y a l'image du moineau qui découvre un gîte. Il y a l'hirondelle qui trouve un nid pour déposer ses petits. Certains commentateurs pensent que le moineau et l'hirondelle, c'est n'est autre que le psalmiste lui-même qui a enfin trouvé un point pour se poser. Après avoir volé d'arbre en arbre, de branche en branche, à la recherche d'un appui solide, il trouve enfin sa maison où il peut faire son nid. Et il y a aussi la joie qui caractérise cette maisonnée. Il y a aussi la louange. Il y a de la musique, comme dans « La maison bleue » de Maxime Le Forestier. Ah, plus c'est encore les années 80. Où on joue de la guitare jusqu'au bout de la nuit. Sauf que dans la maison de Dieu, on loue l'Éternel pour toujours, car ils pourront te louer toujours. Heureux celui qui habite la maison de l'Éternel. Et on le voit dans ce psaume, c'est une conviction forte qu'exprime le psalmiste, une conviction qui vient couronner les déclarations des versets précédents et qui montre la profondeur de son désir de Dieu et de sa souffrance d'être loin de Dieu. Je m'épuise à force de languir après les cours du temple du Seigneur. Mon cœur et ma chair crient vers le Dieu vivant. C'est une autre traduction que je lis. Le psalmiste est habité par un désir profond de Dieu. Et on pense forcément en écho à cet autre psaume, le psaume 42. Mon âme soupire après toi comme une biche soupire après des courants d'eau. J'ai soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je, paraîtrai-je devant Dieu ? Et ce qui est intéressant, c'est que ces deux psaumes, 42 et 84, sont exprimés si fort ce désir de la présence de Dieu. Ce sont des psaumes écrits par les fils de Corée. Avec un Q, Corée, hein, pas un C. Et c'est-à-dire, c'est qui les fils de Corée ? Ce sont des Lévites. C'est quoi des Lévites ? C'est des gens dont l'identité même est définie par le service de Dieu au temple. Or, manifestement, ces Lévites se sont retrouvés, pour une raison ou une autre, sans pouvoir accéder au temple, sans pouvoir servir Dieu et bénéficier de sa présence. Et cela provoque un vrai déchirement intérieur. Ils sont déchirés, ils ne peuvent pas. Et c'est beau à voir, ce déchirement. Et je me pose la question, est-ce que je ressens cette soif de la présence de Dieu comme les fils de Corée dans ces psaumes ? Mais en même temps, il nous faut recevoir cette déclaration de bonheur à nous qui ne sommes pas empêchés d'aller au temple, d'aller dans la présence de Dieu, d'être ici ce matin. Heureux surtout sommes-nous qui n'avons pas besoin d'un lieu désigné comme le temple de Jérusalem pour jouir de la présence de Dieu, mais qui, en Jésus-Christ, pouvons jouir de sa présence. Il y a l'apôtre Jean qui dit dans son évangile, vous savez, cette image du cep et des sarments, qui dit « Celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera du fruit en abondance. Et c'est en Jésus-Christ que nous sommes invités à faire notre demeure, à habiter constamment, afin que notre joie soit parfaite et que notre bonheur soit complet. Heureux ceux qui habitent ta maison. Et la deuxième déclaration de bonheur arrive au verset 6 tout de suite après, mais c'est la deuxième strophe qui commence par ces mots « Bienheureux les hommes dont tu es la force ». Et là, il est question de la force que Dieu donne dans le cœur, et il semble que l'on peut parler du courage. Je m'aperçois qu'en 8 ans de prédication, j'ai pas mal parlé du courage. Et à chaque fois, je le disais que si j'en parle, c'est peut-être parce qu'il m'en manque et que c'est tellement important d'en avoir et que c'est en Dieu qu'on peut le trouver. Le courage, c'est la force du cœur, étymologiquement. Il y a cœur dans courage. Heureux l'homme qui trouve en Dieu son courage. Et l'image est cette vallée des larmes qui nous fait penser au psaume 23, la vallée de l'ombre de la mort. Mais dans une autre orthographe hébraïque, on parle de la vallée des baumiers. Un baumier, comme vous le savez tous, c'est un arbre qui pousse sur les terrains arides. Et il y avait une vallée comme cela sur la route des pèlerins vers Jérusalem. Et c'est certainement cette orthographe-là qu'il faut retenir, puisqu'on parle de pèlerinage dans le psaume 84. La vallée de l'aridité, de la sécheresse. Vallée des larmes, vallée de l'aridité, ce sont deux vallées qui sont marquées par la pénibilité, par la difficulté, par l'épreuve. Et pourtant, oui, heureux les hommes qui puisent leur force en Dieu parce qu'ils trouvent la force non seulement de traverser ces vallées par des chemins tout tracés, grâce au courage que Dieu leur donne, mais même, et c'est la folie de la grâce de Dieu, de les transformer en oasis, c'est ce que dit le psaume. De transformer ces traversées du désert en des temps de fécondité spirituelle. Oui, il y a pour celui qui comprend qu'il ne peut s'appuyer sur ses propres forces, mais qui choisit de s'appuyer sur la force de Dieu, il y a pour cet homme, pour cette femme, dans ce temps d'épreuve, comme une occasion de grâce, comme une possibilité d'expérimenter la présence de Dieu d'une manière nouvelle, rafraîchie, comme une oasis. Et nous le savons bien, l'expérience nous le montre, que dans nos vies, ce sont parfois dans les moments de désert, dans ces moments où nous avons choisi de compter sur Dieu, parce que quelque part, on ne peut plus compter sur personne d'autre, c'est dans ces moments-là que nous expérimentons paradoxalement une forme de joie, de paix, celle de la présence de Dieu. On pourrait presque parler de bonheur. Celle de constater qu'alors qu'à vue humaine, nos forces auraient dû s'épuiser, nous sommes toujours là, et peut-être même plus forts qu'avant, mais d'une force différente qui vient de loin, de plus profond, qui vient de Dieu, qui nous donne ce courage. Et le psalmiste va jusqu'à dire, d'étape en étape, leur vigueur s'accroît. Leur vigueur ne cesse de croître. Alors on pourrait parler d'une légère exagération, d'une hyperbole, et on se dit qu'il faudrait pas pousser trop loin le bouchon dans la vallée de l'épreuve, quand même, dans la vallée des larmes. Mais c'est l'expérience du psalmiste qui s'appuie sur la fidélité de Dieu et qui peut dire, oui, heureux sommes-nous si nous puisons notre force en Dieu parce que nos difficultés sont l'occasion d'apprendre encore plus à compter sur lui. Notre vigueur s'accroît, d'étape en étape, dans cette vallée même. Et plus loin, et le verset 8, oui, qui est là, nous présente le but, l'objectif de ce pèlerinage, c'est de se tenir devant Dieu à Sion. En Sion, à Jérusalem. Sion, c'est Jérusalem. Et nous sommes aussi en pèlerinage vers la cité céleste, vers la nouvelle Jérusalem, vers le royaume de Dieu. Et on pourrait penser à Paul qui dit à ce jeune Timothée qui fait, et Paul fait la relecture, le débriefing de sa vie. Et lui dit, j'ai mené le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Dieu m'a donné le courage. Il m'a donné du cœur. La troisième béatitude se trouve un peu plus loin dans la troisième strophe et elle termine en fait le psaume. Heureux, bienheureux, celui qui met sa confiance en toi. Et elle est du même acabit que les autres. Elle place le bonheur dans la relation avec Dieu, en Dieu. Et vous aurez sans doute remarqué quand même qu'au contraire des deux premières, elle est au singulier. Les deux premières, bienheureux les hommes, les femmes, bienheureux les ceux. Et là, bienheureux est l'homme, la femme, qui met sa confiance en toi. Comme un appel adressé à chacun, chacune, à avoir une relation personnelle de confiance avec Dieu, le Seigneur, l'Éternel. Et donc avec la confiance, cette question de confiance, on rentre dans une relation du un à un, et on rentre aussi dans un domaine, un domaine particulier qui nous est cher, celui de la foi, puisque les deux sont pratiquement synonymes, confiance et foi. Et un commentateur rapprochait aussi cette béatitude du psaume 84, « Bienheureux est l'homme qui met sa confiance en toi », à une autre déclaration de bonheur de Jésus. Une autre déclaration de bonheur que Jésus a dite, mais pas dans le sermon sur la montagne. Il l'a dit après l'épisode de Thomas, quand il est ressuscité et Thomas a des doutes comme il n'est pas permis. Si, comme il est permis d'avoir des doutes. Et il va dire, et vous l'avez le texte, dans Jean 21, je crois, ou Jean 20, « Bienheureux ceux qui croient sans avoir vu. Bienheureux celui qui marche par la foi. Bienheureux celui qui marche par la confiance en Dieu. » Et dans ce psaume, vous l'avez compris, il est question de pèlerinage et il est clair que l'auteur n'a pas encore atteint le but du voyage et il l'entrevoit seulement, il ressent cette aspiration à autre chose, à une maison céleste, à une patrie céleste comme Abraham. Il est dit dans l'Épître aux Hébreux qu'il prévoyait non pas le pays de Canaan, mais quelque chose de plus, une patrie. Il le ressentait, il aspirait, mais il ne l'avait pas encore entre les mains. Et la foi, la confiance, ce n'est pas, attention, ce n'est pas remettre les choses à des lendemains meilleurs. C'est aujourd'hui que le psalmiste place sa confiance en Dieu, une confiance heureuse. Une confiance lumineuse même, puisque Dieu est décrit par des mots très forts. Il est ma lumière et mon bouclier. Lumière, tout ce qui est positif, attirant, lumineux, évidemment. Et bouclier, tout ce qui protège. Et puis deux autres mots que vous avez certainement vu, cinquième ligne avant la fin, l'Éternel accorde bienveillance et gloire. Bienveillance et gloire, avec des mots qui vont prendre du sens tout au long de la révélation biblique jusqu'au Nouveau Testament. Bienveillance surtout qui est un mot proche du même, qui a été traduit par le mot grâce, et qui dans l'Ancien Testament fait référence au sourire de Dieu, au sourire que Dieu pose sur nous. Ça, c'est la grâce. Et aujourd'hui, cette grâce, elle est manifestée en Jésus-Christ et en lui, nous avons ce sourire de Dieu sur nous. Et la gloire, à l'époque, ce n'est déjà pas limité à des biens matériels, trucs glorieux, mais déjà, ça pointe vers une participation à la gloire de Dieu. Et on m'a fait découvrir dans mes lectures, sur ces béatitudes, 1 Pierre 4, 14, qui est une déclaration de bonheur de Pierre, qui dit, et il parle dans un contexte de persécution, « Si l'on vous insulte parce que vous appartenez à Christ, heureux êtes-vous. » Là, ça renverse les valeurs. « Car l'Esprit glorieux, l'Esprit de Dieu repose sur vous. » C'est extraordinaire, ça. La gloire de Dieu, vous êtes participants à la gloire de Dieu dans la communion des souffrances de Christ. En déclarant heureux celui qui place sa confiance en Dieu, ce psaume du bonheur termine à mon avis en apothéose là. Mets ta foi en Dieu et pointe vers ce bonheur de la foi en ce Dieu qui nous aime et qui nous protège en Jésus-Christ. En conclusion, et oui déjà, et pour terminer, j'aimerais faire ressortir un point commun de ces trois déclarations de bonheur. C'est de dire que ce bonheur n'est pas une recette. Même pas en trois points. Non, pour la Bible, le bonheur ne se cuisine pas, il ne se mérite pas non plus, il ne se gagne pas non plus, il ne s'organise pas non plus. Je vais encore faire une référence aux années 80, je suis désolé, mais je l'ai vu cette rétrospective il y a une semaine. C'était sur Arte, assez tard, après les réunions, après la réunion. Et c'était sur Michel Berger et France Gall. Et tous les deux disparus. Mais un des amis de Michel Berger disait « France Gall a organisé le bonheur de Michel Berger ». Et je veux bien croire que France Gall était une chic fille et qu'elle a pu, d'une certaine manière, organiser le bonheur de Michel Berger, qui était, paraît-il, un écorché vif de la vie. Mais quelque part, je me dis que c'est un peu trop beau pour être tout à fait vrai quand même. Le bonheur ne s'organise pas. Le bonheur ne se cuisine pas. Le bonheur se choisit. Le bonheur est un choix. On se choisit heureux. Et le verset 4 est très intéressant. « Heureux ceux qui habitent ta maison ». On en a déjà parlé. Et plus loin, mieux vaut en effet un jour dans tes parvis que mille ailleurs. On le chante souvent. Mais la suite, c'est « J'ai choisi de me tenir sur le seuil de la maison de l'Éternel plutôt que de résider sous les tentes de la méchanceté. » J'ai choisi. Il y a un choix qui est fait entre les lieux de résidence, la maison de Dieu ou les tentes de la méchanceté. Pas vraiment les tentes des méchants, mais de la méchanceté, c'est-à-dire de la vie sans Dieu. Le méchant dans l'Ancien Testament, c'est pas une personne définie. Ah, il est méchant, il a un mauvais caractère. Non, c'est l'homme qui vit sans Dieu. Je ne veux pas vivre sous la tente de l'homme que je serais sans Dieu, de la méchanceté. Comme pour une maison ou pour un appartement, il y en a beaucoup qui déménagent ces temps-ci, on a le choix, enfin pas tous les choix, mais ça dépend du budget, mais on peut choisir et on va le faire selon des critères personnels, près du centre-ville, plutôt à la campagne, etc. etc. Et il en va de même pour le bonheur. C'est à moi de choisir mes critères de bonheur, de ce que je juge important pour le bonheur. Et l'auteur du psaume 84 a fait son choix, celui de se tenir dans la maison de Dieu, de faire confiance, de puiser en Dieu sa force. Et il semble heureux de son choix, puisqu'il le dit plus loin, que Dieu ne refuse pas le bonheur à ceux qui font ce choix-là. J'aime bien cette expression, Dieu ne refuse pas, au contraire, il le donne, il l'offre. Alors il y a, je ne sais pas si, bon, il n'apparaît pas sur le diaporama, mais il y a une petite clause restrictive au contrat du bonheur. Il ne refuse aucun bien à ceux qui cheminent dans l'intégrité. Ah ! Il y a une petite clause limitative. Mais l'intégrité, c'est ne pas avoir un cœur partagé. Et en fait, cette phrase, elle est aussi logique que la promesse du psaume 81 que je vous lis, verset 11. « Ouvre largement ta bouche et je la remplirai. » Dieu ne refuse pas le bonheur à ceux qui se mettent en position ou en situation de le recevoir. À tous ceux qui s'attendent à lui pour vivre le bonheur, il est prêt à offrir comme son soleil, comme sa grâce. Dieu ne refuse pas le bonheur à ceux qui choisissent de se tenir sur le seuil de la maison de l'Éternel. Et dans le langage d'aujourd'hui, se tenir sur le seuil, ça veut dire choisir de positionner sa vie de manière différente que la grande majorité des gens d'aujourd'hui, sans vouloir faire comparaison. Se tenir sur le seuil de la maison de l'Éternel, c'est choisir d'être chrétien, c'est choisir de faire confiance aux promesses de Dieu pour ma vie et pour le monde, c'est choisir de chercher premièrement les valeurs du royaume, c'est choisir de suivre Jésus-Christ, quoi qu'il en coûte. Comme valet. Dieu ne refuse pas le bonheur à ceux qui font ce choix. Dieu ne refuse pas le bonheur à tous ceux qui placent leur confiance en lui, qui veulent habiter en lui, qui veulent trouver leur force et leur courage en lui. Et le psalmiste, il me semble, nous invite à faire encore et chaque jour et à nouveau ce choix, le choix du bonheur. Et ce bonheur n'est pas un bonheur commercial, un bonheur sucré, ad nauseum, un bonheur formaté, tu dois faire ça pour être heureux. Mais c'est un bonheur offert par Dieu, par sa grâce, sous son soleil, sous son sourire. Et un bonheur choisi par l'homme. Et ma prière est que nous soyons des hommes et des femmes heureux, heureuses, à cause de Dieu, par lui et en lui. Et au XXIe siècle, le psalmiste aurait dit « Être avec Dieu, c'est que du bonheur. » Amen.